Bonsoir, chers auditeurs de la Radio de la Paix, et bienvenue à cette tribune de la presse sur Radio Okapi. Je suis Freddy Bikumbi Ignace, et ce soir nous parlons de la sortie médiatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, sur la situation actuelle du pays, 6 ans après son départ du pouvoir. Kabila Kabange a préféré s'exprimer sur ce que traverse actuellement la République démocratique du Congo, du point sécuritaire et gouvernance de son successeur. L'opinion est divisée sur le contenu de son message à un média sud-africain. Connaît-il les secrets de ce que vivent les Congolais du Nord et du Sud Kivu face à l'avancée du groupe rebelle M23? Dans cette tribune de la presse, avec des journalistes invités, nous échangerons sur les séjours du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, en République démocratique du Congo. Pour lui, les Congolais ont droit à la protection et à la justice. Il a fait appel à quiconque ayant des pièces à conviction sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis en RDC, de les apporter, ainsi pouvant lui permettre d'ouvrir un procès contre les auteurs de la violation du droit de la guerre, les DIH. Comment les journalistes congolais analysent-ils tout ce qui se passe dans leur pays? Vous allez les entendre. Félix Patrick Abeli, journaliste indépendant basé à Kinshasa. Bonsoir.
Bonsoir Freddy Bikumbi. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bonsoir Umbo Salama.
Bonsoir Freddy, bonsoir Radio Okapi, bonsoir à tous les auditeurs de cette émission.
Vous êtes journaliste et directeur de la Radio Soleil FM de Butembo au Nord Kivu. Également Anderson Erabo, journaliste de la Radio Télé Évangile et Réconciliation de Nyakunde RTR à Ituri. Bonsoir.
Bonsoir Freddy et bonsoir à plus de 8000 auditeurs de la Radio Okapi.
À toutes et à tous, bienvenue. Je vous donne la parole pour nous dire l'actualité dans votre zone de couverture. Ce qui vous a marqué de plus pendant cette semaine, nous allons commencer ici à Kinshasa avec Félix Abeli.
Voilà, ce qui m'a plus marqué cette semaine, c'est verdict, hein. Je ne m'attendais pas à ça. Je venais de le dire tantôt que nous devons renforcer les pouvoirs de la justice. Comment se fait-il que quelqu'un qui a détourné l'argent, il est disculpé? Et puis il vadrouille pêle-mêle, il n'est pas concerné. Donc c'est quelque chose qui est inexplicable. Là je fais allusion au projet de forage et lampadaire où on a suivi les verdicts, où Mike Kasenga, l'entrepreneur qui était engagé dans ce projet, lui a été acquitté. Et par contre, l'ancien ministre de développement rural, François Robota Masumbuko, a écopé de 3 ans de prison. Pendant ce temps qu'il y avait un argentier du gouvernement en place, M. Nicolas Kazadi Nzuzi, qui lui a ma grande déception, voir les messieurs qui a géré l'argent dans ce cadre de ce projet être écarté. Donc c'est quelque chose que je suis en train de regretter. Ça jette vraiment de l'opprobre à la justice congolaise. Je crois que la justice, en cet état actuel où nous sommes agressés, la justice devait donner la vraie face. Il devait y avoir une justice juste et équitable à même d'infliger des sanctions s'il faut le faire. Mais avec ce que je puis constater, la justice que Félix Tshisekedi avait qualifiée de malade, elle est morte.
Anderson Erabo, quelle est l'actualité au niveau de la province de l'Ituri?
La nuit du 26 février, de présumés rebelles ADF ont surgi dans la chefferie de Babila Bakwanza. Babila Bakwanza se trouve dans le territoire de Mambasa, confrère Freddy. Ceci 3 mois après une accalmie observée dans cette partie de la ville de Bunia, ces extrémistes islamistes ont attaqué simultanément 11 villages de cette chefferie. à la limite avec la chefferie de Babila Babombi, toujours au même, dans le même territoire de Mambasa. Donc, les bilans provisoires faits étant des 6 civils tués, dont 2 femmes et 4 hommes parmi lesquels le fils de l'ancien chef du village, Matolo, pris en otage en mars 2024 avant d'être tué. Rendons-nous dans le territoire d'Ndjougou. Selon le porte-parole du secteur opérationnel de l'armée en Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo, les FARDES ont riposté farouchement contre une attaque des milices Zaïre à Nyamamba et à Sabé, une entité située au littoral du lac Albert en Djougou, non loin de Tchomia, à plus ou moins 60 km à l'est de la ville de Bounia. Actuellement, le calme est revenu dans cette partie de la province de l'Ituri.
Umbo Salama Horace, quelle est l'actualité chez vous à Butembo, Bibo?
Oui, ici l'actualité c'est la rareté de c'est tous les produits qui provenaient des zones maraîchères, puisque ces zones sont déjà à moitié occupées par les troupes du M23. Quand on voit vers les collines entre Kitsumbiro et d'autres collines qui sont cette entité, et puisque ce sont des entités qui ravitaillaient la ville et d'autres villes ainsi que d'autres coins de la République en produits maraîchers, et ces produits qui deviennent de plus en plus rares, puisque même les zones où les M23 ne sont pas encore arrivés, il y a la population qui a déjà vidé leurs maisons, puisque les FARDC, quand ils sont en train de quitter les zones, ils sont en train de piller, de tracasser la population. Et même ici dernièrement, je pense que les mercredi ou jeudi, et les militaires du FARDC ont même pillé un couvent des prêtres catholiques au niveau de la paroisse de Luotu. C'est dans les collines du territoire de Lubero. Et aussi, l'autre actualité, c'est la visite du gouverneur du Nord Kivu, le gouverneur militaire et général-major Evariste Somo, qui s'est rendu à Walikale hier jeudi. Et il a essayé un peu de parler avec la population pour les réconforter, et a appelé la population à soutenir toujours les FARDC et à créer aussi des forces de résistance pour qu'ils puissent essayer un peu de remettre la paix sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Et l'autre actualité, c'est ce que les gens sont en train de se demander dans la ville et dans d'autres coins, c'est par rapport au renforcement des troupes de UPDF dans la ville de Butembo et dans les territoires de Lubero. Et les gens sont en train de se demander comment ça va se passer entre les troupes de UPDF qui sont dans les opérations sujets à collaboration avec les FARDC et les M23 qui sont en train d'avancer. Est-ce que les M23 vont avancer dans les zones qui sont où on retrouve les troupes de UPDF, ou est-ce que les M23 vont combattre avec les troupes de UPDF? Et c'est ça ce qu'ils sont en train de se demander et de dire. C'est là où maintenant on va comprendre la réalité qui existe entre le UPDF et le M23. Voici au moins l'actualité qui est ici à Butembo.
Joseph Kabila Kabange a brisé son silence de plus de 5 ans en s'exprimant dimanche 23 février sur la gouvernance du régime Tshisekedi. L'ancien président de la République, interviewé par le journal sud-africain The Sunday Times, a qualifié la crise actuelle en RDC étant politique, sociale et institutionnelle, et que la mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi pourrait entraîner davantage de troubles au pays. D'ailleurs, Kabila Kabange, dans sa déclaration, il n'est pas pour l'action militaire de la SADC aux côtés des FARDC, plutôt il a appelé l'Afrique du Sud, connue pour son humanisme et ses valeurs, à ne pas envoyer ses troupes en RDC pour soutenir ses régimes actuels qu'il qualifie de tyranniques. Quel regard portez-vous sur cette sortie médiatique de Joseph Kabila, Félix Abeli?
Voilà, merci beaucoup pour votre invitation. Nous sommes très contents d'être associés à ces débats. À propos de la question que vous venez de me poser, je crois que Joseph Kabila, qui est un ancien président, il doit être tenu aussi à un certain droit de réserve. À propos de sa sortie médiatique, il l'est fait dans un pays, en dehors de la République démocratique du Congo, parce que vous le savez, depuis un moment, Kabila n'est pas au pays, il est à l'étranger, difficile de savoir dans quel pays où il se situe, tantôt Namibie, tantôt Afrique du Sud. Alors, à propos de sa sortie, moi je crois que Joseph Kabila n'a pas pu s'appliquer de la sagesse. En tant qu'un ancien président, il fallait appliquer de la sagesse. Ce n'est pas à lui de pouvoir déclarer tout ce qu'il a eu à déclarer. Quand il évoque, par exemple, la situation de l'insécurité, la situation sociale, la crise économique, Joseph Kabila devait mettre de l'eau dans son vin par le fait que toutes ces accusations ou tout ce qu'il est en train de dénoncer, on a eu à le découvrir durant son règne. Et à son époque, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de signaux positifs.
Des différences de ce qu'on vit aujourd'hui.
Oui, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Certes, ce qu'il qualifie de mégestion à son régime, de mégestion avait pris de l'ampleur. Également, dans ces nouveaux régimes, il y a également des mégestions, mais ce que moi je me dis, c'est du blanc, bonnet blanc, mais avec ces régimes actuels, certes, tous les mots que Kabila a eu à dénoncer sont perceptibles, mais il fallait appliquer une certaine sagesse, comme je viens de le dire.
La retenue.
On l'a même qualifié de quelqu'un qui est doctorat en silence, parce que les Kara, il ne pouvait pas s'exprimer, mais juste, il s'est exprimé, mais il faut voir qu'est-ce qu'il a dit. Donc, il a dit quelque chose qui semble diviser les populations congolaises, mais à mon humble avis, selon mes analyses, à moi, il fallait que Joseph Kabila puisse se retenir, puisse avoir de la sagesse, mais il n'a pas appliqué de la sagesse comme ancien président de la République. Par contre, il a plongé les populations d'une part dans l'incertitude et d'autre part à les considérer comme étant la personne qui tire les ficelles dans les conflits qui équiment la République démocratique du Congo. Actuellement, les M23 et les AFC, où une grande partie de notre pays est occupée.
Oumbo Salama, comment est-ce que vous avez vu Joseph Kabila s'exprime 6 ans après son départ du pouvoir?
Moi, je pense que d'abord, Kabila n'avait pas d'autre choix que de s'exprimer dans un média étranger, puisque selon les directives de la CESAC, du CESAC, aucun média ne peut citer le nom du M23 ou faire l'apologie du M23 dans un média congolais. Et donc, il n'avait pas d'autre choix que d'utiliser un média étranger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans cette sortie médiatique de Joseph Kabila, et que c'était une sorte de réponse à une déclaration que le président de la République avait faite à l'étranger quand il avait dit que tout ce qui est en train de se passer actuellement en République démocratique du Congo, c'est son prédécesseur qui est en train de tirer les ficelles, qui est derrière tout ça, qui est même l'acteur principal dans tout ce qui est en train de se passer à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, si Kabila gardait encore son silence, comme il a toujours fait, je crois que le silence allait être compris comme si il soutient. Donc, il accepte ce qu'on vient de lui dire, de dire. Et donc, de ce côté, il devait trouver des mots pour chercher au moins à expliquer les choses telles qu'elles sont, telles que lui-même les voit. Et la troisième chose est que Kabila s'est exprimé comme tout Congolais. Tout Congolais a le droit de faire une opinion par rapport à ce qui se passe au pays. Et là, c'est reconnu par la Constitution. Chacun a au moins, il peut faire son point de vue. Et ça aussi, c'est légitime.
Il a dit que le régime actuel est tyrannique.
Oui, j'ai dit que ça, c'est son opinion. Et il a le droit aussi d'avancer une opinion par rapport à la façon dont lui est en train de voir le pays. Mais ce que je ne comprends pas de son côté, c'est que c'est d'abord un sénateur à vie. Il est donc sénateur, il doit siéger au Parlement. Et s'il faisait la même observation au niveau du Parlement, s'il faisait des interpellations, des motions, pour appeler quelqu'un de venir justifier par exemple ses agissements au niveau du Parlement, c'est là où on allait maintenant comprendre maintenant, on dit voilà ce qu'un sénateur doit faire. Voilà ce que nous attendons des sénateurs. Et donc là, il devrait agir en tant que sénateur. Et aussi en tant qu'ancien président, il est aussi conseiller direct. Il est aussi parmi les conseillers du président de la République en place. Et donc il devrait aussi donner des conseils au président. Et maintenant, quand ils entrent dans le combat entre l'actuel président et le président sortant, et c'est là où c'est en train de créer beaucoup d'histoires que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne savons même pas comprendre, puisque on ne sait pas d'abord les accords qu'ils avaient entre eux, comment ils ont rompu leurs accords, et maintenant aujourd'hui ils entrent dans les combats médiatiques entre les deux, et on ne sait pas maintenant où est-ce que les deux présidents vont nous amener, et on ne sait pas comment on va finir avec cette guerre. Est-ce qu'il faut qu'on puisse rester dans les combats congolais, donc président sortant, président actuel, ou il faut qu'on puisse mettre toutes nos idées en œuvre pour voir comment mettre toutes ces idées pour essayer un peu de limiter la criminalité qui se vit actuellement à l'est du pays.
À vous, Anderson Erabo, comment est-ce qu'Anituri, les journalistes ont accueilli cette sortie médiatique de Joseph Kabila?
Merci beaucoup pour la parole, confrère Freddy Bikumbi. L'intervention du sénateur Joseph Kabila était stratégique. D'une part, elle vise à réaffirmer sa position sur la scène politique, alors que son influence semble s'éroder face aux dissensions internes au sein de son parti ou plateforme dont nous connaissons tous le front commun pour le Congo.
FCC.
FCC, à sigle, oui. D'autre part, il a cherché à répondre aux critères concernant sa gestion du pays et son rôle dans la situation actuelle. Et cette sortie marque-t-elle un retour en politique active? Nous savons que beaucoup de personnes ou de Congolais l'interprètent comme un signal en vue des prochaines séances électorales. Peut-être il est là, il est en train de viser 2027 et 2028, il sera candidat, bien qu'il est limité par la Constitution, pour briguer un autre mandat présidentiel, pour jouer un rôle clé influençant les dynamiques des politiques à venir. Cette prise de parole apparaît comme un appel de son existence politique à une tentative de repositionnement. Restez à savoir s'il aura un impact concret sur le paysage politique congolais.
Oumbo Salama, vous avez parlé des accords qui liaient les deux présidents. C'est aussi un autre point de vue, hein, qui est celui de partisans de Kabila et de Tshisekedi. Au cours du magazine radiophonique Dialogue intercongolais sur Radio Kapi cette semaine, M. Ferdinand Kambere, membre du parti politique PPRD, et l'honorable Amissi Makutano du parti politique IDPS ne se sont pas accordés sur cette sortie médiatique de Kabila. C'était sur un point qui semble être le socle de la crise actuelle à l'est de la RDC. Les accords signés. Ici, je vous demande de suivre ces extraits choisis pour vous, aussi pour nos auditeurs. Je commence par honorable Amissi Makutano.
Je tiens à rappeler à M. Ferdinand Kambere, quand il dit que non, le M23 a été défait, il ne se rappelle plus de ce qui s'est passé. Il y a eu des accords qui ont été signés par M. Kabila à son temps. Et lors de l'accession du président Tshisekedi au pouvoir, il a trouvé la continuité des affaires de l'État. Moi, je vais lui rafraîchir le mémoire en disant que le président de la République, avant qu'il soit président, à l'UDP, lors des élections au sein de notre parti, le président de la République, à son temps candidat, il avait livré un discours en disant « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au mot. Mais une fois élu, moi qui sais qui dit, je vais produire, c'est-à-dire le lueur d'espoir, de la paix et surtout de la collaboration avec tous nos pays frontaliers, République démocratique du Congo, partage avec. » Et c'est ce qui avait été fait lors du débat du président de la République. Il est allé vers les 9 pays frontaliers de notre pays. Ils se sont parlé. N'oublions pas qu'il y a les affaires de l'État qui restent pendant. Et le président de la République a trouvé les accords du M23 signés par M. Kabila et son gouvernement.
C'est comme ça qu'il a fait appel. C'est comme ça qu'il a invité le M23 à Kinshasa. Parce qu'il était dans la continuité des affaires.
C'était dans le cadre parce qu'il a trouvé des accords. Le président avait trouvé des accords signés par son prédécesseur et il ne pouvait pas les nier. Alors, il fallait chercher la manière de pouvoir aborder ces questions pour trouver des solutions palliatives par rapport à cette volonté de vivre ensemble.
Les solutions n'ont pas été trouvées.
Ces accords n'ont pas de bénéfice pour la République et si cela s'avère que ce sont des accords qui devraient brader la souveraineté ou les intérêts de la population congolaise. Parce que ces accords circulent sur les réseaux sociaux, madame, où on vous dit, pour gérer tel parti ou tel endroit, il faut que le cutis vienne d'eux. Il faut que telle race puisse diriger. Il faut que le groupe ici puisse prendre 40 pourcentage. Il faut qu'il puisse prendre autant de pourcentage dans l'armée. Il faut prendre autant de pourcentage dans l'administration. Mais non, ça ce n'est plus un pays.
Voilà, c'était le propos de l'honorable ami Simakutano du parti au pouvoir, IDPS. Et je vous prie aussi de suivre Monsieur Ferdinand Kambere, qui lui aussi, il est du parti de Joseph Kabila.
Je venais de suivre l'honorable Makutano, Amissi Makutano, qui vous dit, c'est en vertu du principe de continuité des affaires de l'État, parce que les accords dont on parle, ce sont des accords d'avant 2012 ou de 2012. Je suis en train de m'étonner si vraiment, en réalité, Félix, en arrivant au pouvoir, il trouve un mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba de 2013, et lui ne sait pas que les accords de 2009 ne pouvaient plus être opposés par qui que ce soit. Et que Félix, justement, c'est ce que nous lui reprochons, il met de côté l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013 qui avait déjà résolu ça. Les M23 dont on parlait à l'époque avait déjà fait un engagement, notamment à Nairobi, mais à Kampala, qui ne reprendra plus les armes pour les opposer contre la patrie et contre la nation. Et Amissi, il ne vous dit rien par rapport aux accords toujours invoqués par les Willy Ngoma de 2019, de 2021, il ne dit rien du tout, parce que c'est des accords invoqués par Willy Ngoma, par les gens de CNDP, la Pasteur Uniga, et que c'était à présence de Kagame. Bien après l'accord cadre d'Addis Abeba, qui est de 2013, là il n'en parle pas. Parce que c'est ça que les autres sont en train de lui opposer. Et c'est ça qu'il refuse d'accepter d'être en dialogue avec eux. Mais lorsqu'on lui impose ça, en réalité, dans le processus de Luanda, dans les processus, dans les sommets conjoints, SADC et AC, on a encore repris pour l'obliger à dialoguer avec eux. Non seulement avec les M23, mais aussi avec les entités non étatiques, ça veut dire ceux qui sont, par exemple, les partis politiques de l'opposition. Pourquoi il refuse un débat interne sur ce que lui a fait de ce pays, sur cette crise qu'il a créée? Et là, il faut dire, non, lui ne fait que par principe de continuité des affaires de l'État. Quel est cet accord qui lui permettait d'aller négocier avec les M23 au Rwanda en 2020? Quel est cet accord qui permettait à ce que les pays de l'EAC, comité et communauté à laquelle il a fait adhérer les pays, pouvaient encore en même temps soutenir les groupes armés? Vous avez bien suivi, par exemple, l'ancien président dans sa tribune lorsqu'il rappelle à l'Afrique du Sud que les pays, en réalité les pays de la SADC qui prônent la démocratie, ne peuvent pas soutenir un régime démocratique. Parce que le problème ici n'est pas que du M23, le problème c'est aussi le pouvoir qui est en place.
Voilà, vous venez de suivre ce que vivent les populations de Bukavu, Kamanyola, Sangi, Goma, Rutshuru, les accords. Quel est votre point de vue, Umbo Salama?
Moi, je pense que nous sommes maintenant dans une histoire qu'on a l'habitude d'appeler, au fait, ce qu'on appelle les rouges contre les rouges. C'est-à-dire, les gens qui peuvent se retrouver dans les mêmes camps, on commence à les monter les uns contre les autres pour qu'on trouve les responsables de tous les côtés. On trouve les responsables de la guerre du côté de l'opposition, comme on trouve les responsables de la guerre du côté de la majorité, donc du côté des partis au pouvoir. C'est ça ce qu'on est en train de nous faire croire, et je pense, comme on a l'habitude de le suivre dans notre pays, ceux qui sont à Kinshasa vont rester beaucoup longtemps dans ce débat entre le président Tshisekedi et le président sortant Joseph Kabila, et ils vont sombrer, ils vont rester là dans ce grand débat entre les deux camps, alors que nous ici à l'Est, nous serons en train de voir comment nous pouvons survivre par rapport à cette guerre. C'est ça ce qui est un peu de nous différencier entre la population qui est à Kinshasa et la population qui est à l'Est. Mais moi, le constat que j'ai dans cette guerre, est qu'il y a des responsabilités qui sont très partagées.
Entre qui?
Que ça soit du côté... Oui, très partagées entre... Que ça soit du côté des gens qui sont au pouvoir, les gens qui sont dans les commandements militaires, les gens qui sont dans l'opposition, et même avec la population locale, partout, on est en train de voir que... Comme si il y a presque la main presque partout.
Mais Umbo, vous dites que la population a eu une part de responsabilité, mais elle n'a pas signé ses accords.
Oui, la population n'a pas signé ses accords. La population est en train de subir. Par exemple, quand on est en train de demander à la population de créer la résistance populaire, la création des groupes Wazalendo, autres mouvements de résistance, ça c'est déjà une part de la population dans la participation de cette guerre. Et donc, ce sont les éléments que nous devons chaque fois observer. Vous voyez, par exemple, quand le M23 perd une zone, vous trouvez les gens qui portaient, par exemple, les armes sur l'épaule gauche, commencent à les mettre sur l'épaule droite. Et donc, ils changent directement du côté, sans même être sans aucune contrainte. C'est là où je trouve qu'il y a beaucoup de responsabilités dans ce qui est en train de se passer. Et donc, si on reste dans ce débat-là, entre le président Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi, et à ce moment-là, on sera en train peut-être de perdre beaucoup de temps au lieu de concentrer toute cette énergie pour voir comment on peut faire face à cette guerre qui est en train de prendre de localité à localité chaque jour.
Anderson Erabo, quelle est votre analyse sur cette discordance autour des accords signés en cachette?
Je vais revenir comme mon prédécesseur vient de dire, la population a une part dans cette affaire. L'accord a été signé en cachette. Et nous, la population, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on a écrit dans l'accord. Mais subitement, on a vu, comme mon prédécesseur a dit, il y a des fichiers qui circulent sur des réseaux sociaux, que tel avait signé l'accord avec tel. Et maintenant, c'est la population qui est en train de souffrir. Si on avait éclairé la population, voici l'accord que nous avons signé entre tel et tel, et la population aussi sont au courant, on devrait prendre une autre disposition. Et voilà, nous sommes maintenant dans cette situation déjà arrivée. On ne sait pas comment est-ce qu'on va s'échapper. Et la population est en train de souffrir, jour et nuit, la population est en train de pleurer.
Nous allons avec vous, hein, Félix Abeli, sur cette question qui divise les politiques autour des accords. Entre, je ne sais pas quel accord entre qui, mais vous sentez qu'ils ont trouvé la continuité du pouvoir. Qu'en pensez-vous?
Oui, je pense que les accords, les conventions, c'est des termes ou des dispositions qui mettent en place, qui sont mises en place, pardon, pour trouver une solution à un problème. Et si ces engagements ou ces accords ne sont pas du tout respectés, c'est de là où est né aussi le problème. Alors, à propos de cette crise du M23 ou de l'Alliance Fleuve Congo, certes, on est en train d'évoquer des accords. C'est vrai, aujourd'hui, nous assistons à cette résurgence du M23 et pourtant, la question avait été bouclée. Il y a l'accord cadre d'Addis Abeba. Qui avait déjà défini les modalités pour éradiquer les phénomènes M23 et avec l'accord de Kampala où les M23 avaient abandonné de reprendre les armes, vous êtes sans ignorer. Et du coup, quelques années après, les M23 ressurgissent et entre-temps, à côté d'une autre personne, Corneille Nanga avec sa coalition qui crée son mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo. Cela me pousse à trop réfléchir sur la question. Vous savez, quand on ne parvient pas à respecter des engagements entre personnes, entre individus, entre États, ça peut toujours créer des problèmes. Et aujourd'hui, si nous assistons à cette situation, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Et il faut chercher l'aîné du problème et trouver une solution. Et la solution ne pourrait pas être trouvée sur base d'un certain prétentionnisme qui pourra se croire que non, on est à mesure de donner une solution quand on espère qu'on est fort et en face de moi, il y a un faible.
et je pense qu'on ne pourrait pas trouver une solution. Parfois, les faibles ont raison sur un certain point, sur une certaine question, et que les forts, vous ne voulez pas accepter qu'il y ait résolution de ce conflit, c'est là où ça va poser problème. Donc, avec la crise de M23, avec tout ce qu'on est en train d'assister dans l'Est, avec une grande partie de notre pays qui est occupée, une grande partie du Sud qui vous, avec la ville de Bukavu et Goma, sans citer Bunagana, Masisi et d'autres agglomérations, à ce stade, il ne faut plus donner du temps à parler de Joseph Kabila, à parler de Félix Tshisekedi, mais il faut plutôt se concentrer sur des solutions qui doivent nous donner de la paix.
Par exemple, quelle solution?
Oui, la solution pour la paix, pour préparer la paix, il faut faire la guerre. Dans ce contexte actuel, est-ce que la République démocratique du Congo est en mesure de faire la guerre
pour libérer
les entités qui sont sous occupation de M23, AFC, sous les labels ou sous les soutiens de forces rwandaises? Je salue l'initiative que moi je peux appeler aussi Congolo-Congolaise. C'est venu de la République démocratique du Congo. Cette initiative des évêques catholiques, elle est à soutenir les Cinco SSC. Quand vous regardez ce qu'ils font, ils n'ont pas consulté les antagonistes seulement en République démocratique du Congo. Ils sont en train d'aller en dehors de la RDC. Vous les voyez aller à Kigali, au Congo-Brazzaville, ils envisagent l'Angola, donc toutes les parties prenantes. Ceux qui sont partis au conflit, je crois qu'avec l'initiative des évêques de la Cinco et de l'église protestante au Congo, il y a l'idée de retrouver une paix. Je suppose qu'on va retrouver la paix parce que c'est une initiative pour nous donner de la paix. Et si on dialogue, il faut qu'il y ait un dialogue sincère, un dialogue franc. Ce n'est pas un dialogue qui va déboucher sur le partage de postes. Moi, je ne suis pas non plus partisan de cette approche, mais il faut plutôt ce dialogue où on va évoquer le vrai nez du problème. Qu'est-ce qui est à la base du problème qui a ressurgi le M23? Qu'est-ce qui est à la base du problème que aujourd'hui une autre partie du pays soit occupée?
Et pour vous, Umbo Salama, que peut être la piste de sortie de cette crise au-delà de ces accords?
Et la première chose est qu'il faut d'abord qu'on puisse tous se regarder dans la même direction. Tous les Congolais puissent se regarder dans la même direction, sans savoir à chercher parmi nous qui fait quoi, qui est qui, ainsi de suite. Donc qu'on puisse avoir un seul regard, les mêmes objectifs, ainsi de suite. Par exemple, il y avait une publication que Paul Institute, un institut dans la région des Grands Lacs, un institut culturel dans la région des Grands Lacs, qui avait écrit, même après la chute du M23 en 2013, qui avait écrit au-delà de la victoire militaire. Donc, est-ce qu'il faut seulement regarder la victoire militaire? Mais qu'est-ce que nous devons faire au-delà de ce que les militaires sont en train de faire? Qu'est-ce que le gouvernement doit aussi faire? Quelle stratégie le gouvernement doit mettre à place? Est-ce que nous devons rester dans cette histoire de parler de qui, de tel ou de l'autre dans des médias étrangers? Est-ce qu'il faut qu'on puisse trouver un moyen pour que nous tous, nous puissions nous asseoir et voir comment on peut régler cette histoire une fois pour toutes? Et là, je pense que ça aura au moins de l'impact par rapport à cette guerre. Est-ce qu'il faut qu'on puisse arriver à mettre nos militaires dans une situation favorable? Est-ce qu'il faut qu'on puisse revoir notre stratégie diplomatique? Et puisqu'il y a des sorties que nous, en RDC, nous sommes en train de faire et qui sont en train aussi de donner une sorte de légitimité à ce que le Rwanda est en train de faire en RDC. Par exemple, quand on dit on va attaquer jusqu'au Rwanda, et le Rwanda dit si on attaque le Rwanda, c'est-à-dire il doit y avoir aussi tel autre groupe dans ces groupes Ardas et dans les FRDC qui veulent maintenant aussi venir renverser le régime au Rwanda. Et donc qu'on ne puisse pas rester dans la guerre médiatique, mais qu'on puisse trouver quels sont les éléments qui peuvent nous aider, qui peuvent nous permettre de regarder dans le même sens.
Anderson Erabo, comment nous pouvons avoir la paix, la stabilité en RDC au-delà de ces guerres entre politiciens?
Moi, je pensais qu'on peut créer un comité indépendant composé de représentants des parties prenantes, dont l'opposition et la majorité, la société civile, partenaires internationaux, qui seront là pour suivre l'application de l'accord. Ce mécanisme permettra de vérifier le respect des engagements pris. Il est aussi essentiel d'instaurer un cadre de concertation régulier, afin de résoudre les différends. Exemple avec le dialogue. Maintenir la confiance entre les acteurs. Identifier rapidement les points et les blocages. On peut aussi appeler les partenaires internationaux pour faciliter ou soutenir l'accord qui doit être joué. Exemple. Donc une pression diplomatique sur les parties en cas de non-respect de l'engagement. Un autre point, cher confrère Freddy, c'est renforcement de l'état des droits et des institutions démocratiques. Ici, un accord politique ne peut pas être effectif que si les institutions du pays sont capables de l'appliquer. Ils doivent donc garantir l'indépendance de la justice pour faire respect de l'accord.
Parlons maintenant du séjour à Kinshasa du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan. Avant de boucler sa mission au pays, le procureur de la CPI a échangé avec le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, de même avec quelques membres du gouvernement. Voici un extrait de son interview qu'il a accordé à Radio Okapi. C'était au micro de Ronelli Tibonera.
But of course, like the rest of the world, we are extremely worried in Congo.
Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous savons que la situation, particulièrement à l'est, est très très inquiétante. Des centaines de personnes sont mortes et des milliers blessés. Et le message doit absolument passer clairement. Tout groupe armé, toutes forces armées, tous les alliés de groupes armés et de forces armées, ils n'ont pas un chèque à blanc. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. Et je suis très clair là-dessus, la loi doit être effective. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Personne ne peut attaquer les civils, blesser les gens, tuer les gens. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Les populations de la République démocratique du Congo sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde.
Le procureur de la CPI a la situation à main. Karim Khan fait appel à toute personne détenue de preuves sur les crimes contre l'humanité, crimes de guerre commis en RDC, de les apporter, même en anonymat. Qu'en dites-vous de son approche sur l'aspect justice, Félix Abeli?
Voilà, à propos de la visite du procureur près de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo, moi j'ai une façon de voir les choses. D'abord, il faut dire que cette visite vise à renforcer la coopération entre la RDC et la CPI, d'où il faut l'importance de la justice pour la paix, la réconciliation en République démocratique du Congo.
Mais, la justice.
Voilà, à propos de la justice, vous savez, quand on a une justice juste et équitable, il y a lieu d'éviter les conflits. Parce que tout conflit, s'il n'est pas bien géré, il crée également de l'injustice. Alors, vous savez, dans notre pays, nous avons des défis sécuritaires. Nous avons des défis politiques. Alors, pour le procureur Khan, il y avait la nécessité de se rendre ici chez nous en République démocratique du Congo. D'abord, son objectif, c'est soutenir les enquêtes qui sont menées ou qui doivent être menées au sujet des atrocités qui sont commises en République démocratique du Congo. Bien que lui met plus les focus pour les atrocités commises par les groupes rebelles, soutenir aussi les victimes de toute forme de violence commises en République démocratique du Congo. Oui, mais c'est là où il y a un problème. Mais si il y a un mécanisme sérieux mis en place pouvant permettre de recueillir les allégations, recueillir les preuves, je crois que ça va rendre la tâche très facile à la CPI.
Anderson Erabo, le numéro 1 de la CPI, est arrivé au Congo, il est reparti. Il demande qu'il y ait des preuves, en tout cas, des pièces à conviction pour punir les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité en RDC.
Visite du procureur de la CPI témoigne d'abord de l'engagement de la CPI pour soutenir les efforts de la RDC pour établir la justice et assurer la protection des populations affectées par les conflits armés dans l'est du pays. Ça, nous tous, nous sommes d'accord pour cela. Maintenant, l'importance des pièces de conviction dans la poursuite des crimes, selon moi, la CPI pouvait engager des poursuites contre les auteurs présumés des crimes commis en RDC. Il est aussi essentiel de disposer de preuves tangibles et irréfutables, dont les témoignages des victimes. Je pensais que la CPI devrait, ou le procureur devrait se présenter à Goma, pas à Kinshasa. C'est là où ils vont trouver les témoignages des victimes. Oui, il est arrivé à Kinshasa et repartir. Or, les vrais faits se trouvent à l'est du pays. Il devrait arriver à Beni ou peut-être à Bunia, à Goma, pour palper du doigt la réalité qui se trouve sur le terrain. Nous savons nous tous comme quoi les auteurs des crimes sont les M23, les FDLR, les ADF et ses alliés.
Nous allons nous rendre à Butembo avec vous, Umbo Salama. Comment est-ce que vous digérez cette présence du procureur en RDC?
Oui, d'abord nous saluons cet engagement de la CPI en faveur de la population congolaise qui est en train de traverser des moments si difficiles. Mais par rapport à ce qu'il a déclaré, moi mon inquiétude se retrouve d'abord au niveau du mécanisme que la CPI veut mettre en place pour que les gens viennent déposer leurs éléments qu'ils possèdent, quel mécanisme on va utiliser. C'est vrai, il a parlé de l'anonymat, mais comment cet anonymat va aller? Comment on va chaque fois contacter la CPI?
Il a donné l'adresse email du site de la CPI.
Oui, avec l'adresse mail, vous savez que c'est déjà facile d'identifier celui qui a envoyé, surtout que nous ne sommes pas aussi très calés en informatique. Mais aussi, il y a un autre paramètre qui est dans cette guerre, c'est un paramètre où il y aura des problèmes avec les droits humanitaires internationaux, c'est de savoir les personnes qui sont les parties prenantes au conflit. C'est vrai, on peut identifier les M23, on peut identifier les FRDC, mais quand il intervient la partie-là de Ouazalendo, ça devient compliqué. Et donc, il y a beaucoup d'éléments, il faut que celui qui va travailler cette guerre puisse avoir beaucoup de nerfs. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont entrer en compte et qui vont permettre à ce qu'on puisse avoir les vraies données pour prouver que tel ou tel, c'est celui qui a commis des crimes.
C'est par ici que se termine ce magazine Tribune de la Presse sous la radio Okapi. Merci à vous, Anderson Erabo, journaliste de la radio RTR, radio télé Évangile et Réconciliation de Nyakoundé à Nitouri. Également à vous, Umbo Salama Horace, journaliste et directeur de la radio Soleil FM de Butembo, au Nord Kivu. Sans oublier Félix Patrick Abeli, journaliste indépendant basé ici à Kinshasa. Merci à toute l'équipe Okapi de la Tribune de la Presse. Kéline Kouté, Guy Maté, sous la supervision de Martin Sebudjangwe. La mise en onde est l'œuvre de Dieudonné Nyangasa. Freddy Bikumbi Ignace était à la présentation de ces magazines.